Radio Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma. D'envoi ce lundi 3 juin de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP à travers la RDC. Au Nord Kivu cependant, les centres de passation de ces épreuves à Kanyabayonga et Bulotwa sont relocalisés. Décision des responsables éducationnels, motif des affrontements non loin de cette zone entre l'armée et le M23. Des femmes enceintes, des enfants et des personnes de troisième âge sans abri, sans nourriture, sans eau potable et sans accès aux soins de santé primaires. C'est la situation des déplacés vivant à Kirumba dans le Nord Kivu. Ces déplacés ont fui depuis quelques jours l'avancée des rebelles du M23 vers Kanyabayonga. Et puis, l'invité de ce matin, Matata Ponyo, président du parti politique LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, à l'issue du conclave de son parti organisé ce week-end à Kinshasa, il dit non à la révision constitutionnelle et demande la suppression de la CENI. Madame, Messieurs, bonjour. L'examen national de fin d'études primaires ENAFEP démarre aujourd'hui dans toute la RDC. Au Nord Kivu cependant, les centres de passation de ces épreuves à Kanyabayonga et Bulotwa sont relocalisés vers Kaina. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au nord de Kanyabayonga. Décision prise samedi par les responsables de la sous-division de l'EPST Kirumba dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Cela fait suite aux affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 près de Kanyabayonga, affrontements qui ont occasionné le déplacement de la majeure partie de la population de cette commune. Cette mesure vise donc à garantir la sécurité des élèves finalistes pendant les épreuves de l'ENAFEP. Rosalie Zawadi.
Au total, 5 centres de passation de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP sont relocalisés à Kaina, un centre de Bulotwa et 4 centres de Kanyabayonga. Cette décision a été prise lors d'une réunion technique tenue à Kirumba samedi pour permettre à ces élèves déplacés de passer lundi leur examen comme tous les finalistes du primaire dans les pays. C'est ce qu'explique Paluku Muvunga Richard, sous-provède de l'EPST Kirumba.
Comme la majorité des enfants, on a fait sondage là-bas. Et nombreux sont aux environs de Kaina, Kirumba. Alors, tous les enfants seront déversés à l'épée Kaina. Que les enfants passent les examens dans l'apaisement. Et aux parents de préparer convenablement leurs enfants pour les NAFEP en oubliant d'abord l'image de la guerre. Et que les enfants ne soient plus frustrés. Dieu est là, Dieu est bon et tout sera sécurisé.
Monsieur Muvunga ajoute que les élèves finalistes qui se sont déplacés avec leur famille vers des localités éloignées de Kaina passeront l'examen dans leur lieu de refuge. Les responsables des centres de passation de l'ENAFEP dans toute la zone ont été instruits de recevoir les élèves finalistes déplacés. Ils transmettront par la suite leur copie d'examen pour correction dans leur centre relocalisé. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Entre-temps, les FARDC et le M23 se disputent depuis la semaine passée le contrôle de Kanyabayonga, ce qui explique des violents combats jusqu'à hier dimanche dans la matinée entre l'armée et les rebelles à Butalongola, plus ou moins 6 kilomètres au sud-ouest de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Martial Papimukeba nous parle de l'importance stratégique de Kanyabayonga.
Avec une population estimée à plus de 80 000 personnes, la commune rurale de Kanyabayonga est située à la limite entre les Grands Nord qui couvrent la région de Beni, Butembo et Lubero et les territoires de Rutshuru sous occupation des rebelles du M23. Dans sa partie sud, Kanyabayonga, qui est sur une colline, donne une vue panoramique sur le parc national de Virunga et ouvre la voie à une dizaine de kilomètres de Rwindi. Cette station de l'ICSN sous l'occupation rebelle depuis quelques mois dispose d'un aérodrome et permet de contrôler trois axes. Rwindi, Mabenga, Kiwanja, Mabenga, Vichumbi et Rwindi, Kibirizi. Du côté nord, à partir de Kanyabayonga, on a également une voie ouverte et par route vers les agglomérations de Kirumba et Kaina ainsi que les grandes villes de Butembo et Beni. Le contrôle de Kanyabayonga permet donc d'avoir une facilité de bouger son dispositifs militaires vers les Grands Nord et les Petits Nord, ainsi que protéger ses arrières. Jusqu'à ce samedi, dans la matinée, la position avancée des rebelles du M23 se trouve à 6 km au sud-ouest de cette commune rurale. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Notez qu'un retour au calme s'observe depuis hier après-midi après des violents combats toute la mi-journée entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les faubourgs de Kanyabayonga. Par ailleurs, des milliers de déplacés vivent un véritable calvaire à Kirumba, commune rurale du territoire de Lubero également. Ces déplacés, en majorité des femmes, enfants et personnes de troisième âge, ont fui il y a quelques jours l'avancée des rebelles du M23 vers la commune rurale voisine de Kanyabayonga. Sur place, il manque de tout, nous dit Martial Papimoukeba.
Des femmes enceintes, des enfants et personnes de troisième âge, sans abri, sans nourriture, sans eau potable et sans accès aux soins de santé primaires. C'est la situation des milliers de déplacés qui vivent à Kirumba après avoir parcouru une trentaine de kilomètres à pied en provenance de Kanyabayonga. Beaucoup d'entre eux se déplacent pour une énième fois après avoir fui les territoires de Rutshuru et Masisi. Richard Kaloumé, président de ces déplacés, explique leur calvaire.
Beaucoup d'entre eux dorment à la belle étoile. Toutes les églises, les salles publiques, les écoles sont remplies de déplacés. Les enfants dorment sur le sol sans aucune couverture. Les femmes enceintes dorment tout au long de la route exposées aux intempéries. Si vous arrivez dans la zone, vous allez vous-même pleurer.
Jacques Kassika de l'organisation nationale Umoja in Action dit craindre une catastrophe humanitaire dans la zone.
Plus de 50 000 ménages déplacés ici à Kirumba, où on a aussi autant. Si rien n'est fait, on va assister à une catastrophe humanitaire difficile à contenir.
Depuis 4 jours, plusieurs humanitaires déployés dans les sites de Lubero pour assister les déplacés ont quitté la zone. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, plus de 6000 ménages des déplacés du site de Kigonze et de l'ISP Bunia ont bénéficié vendredi d'une importante quantité de vivres composés de farine de maïs, du riz, des haricots et de l'huile végétale. Ce don est l'œuvre de l'entreprise Mongabaon qui se charge de la réhabilitation des voiries urbaines. Selon le responsable de cette entreprise, l'objectif est d'apporter du réconfort à ces familles qui vivent dans la précarité. Ézéchiel Mousalia, reportage.
Ce don est composé essentiellement de 25 kg de farine et 12 kg de riz, haricots, 5 litres d'huile végétale ainsi que du sel de cuisine distribué à chaque ménage hébergé dans ces sites. Selon le comité des déplacés du site de Kigonze, cette assistance tombe à point nommé, surtout en cette période où le site fait face à d'énormes défis sur la prise en charge alimentaire et sanitaire. Une bénéficiaire exprime sa gratitude.
Nous les déplacés, nous souffrons beaucoup dans ces sites. Je reçois 5 litres d'huile, farine, haricots. Nous avons d'autres difficultés. Nos toilettes sont déjà remplies. Nous voulons rentrer dans nos villages.
Présent à cette cérémonie de distribution des vivres, le gouverneur de province salue ce geste de générosité de cet opérateur économique. Selon lui, ce geste est un signal fort au gouvernement de l'état de siège de rétablir la paix en province pour permettre à ses habitants de retourner dans leur milieu d'origine. Le général Johnny Luboyan Kachama.
C'est une question de cœur. Vraiment, je tiens à remercier Mongabaon pour ce geste combien louable. Donc aujourd'hui, c'est un message fort pour nous de les retourner chez eux à la maison. Voilà.
Notez que cette campagne de distribution des vivres se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Bounia, Ézéchiel Mousalia, Radio Okapi.
Et puis, le désengagement de la MONUSCO du Sud-Kivu ne devrait pas laisser l'incertitude dans cette province aux opportunités multiples, mais aussi avec beaucoup de défis. Propos tenus par Bruno Lemarquis devant la presse et en présence de la mission conjointe qu'il a conduite durant une semaine au Sud-Kivu. Le point avec Jean Kassami.
Le retrait définitif de la MONUSCO dans la province du Sud-Kivu entre en vigueur le 30 juin 2024. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'humanitaire, Bruno Lemarquis, a dirigé une mission conjointe à Bukavu. La RDC était représentée par le délégué des ministères des Affaires étrangères et du Plan. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu était aussi de la partie. Le groupe de coordination des partenaires comptait une vingtaine de membres venus de l'Union européenne. européenne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis d'Amérique et de la Suisse. D'autres encore représentaient les forums des ONG internationales et nationales, les institutions financières ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux. L'objectif, selon Bruno Lemarquis, c'est de faire en sorte que le désengagement de la MONUSCO ne puisse laisser les populations civiles dans l'incertitude et donc éviter une interruption. Le gouvernement au premier plan et les partenaires apportent les appuis nécessaires. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Le gouvernement souminois doit rétablir la confiance entre le pouvoir et la population. Cela passe notamment par la maîtrise du cadre macroéconomique et l'investissement dans les infrastructures. Ces recommandations du parti LGD de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo ont été formulées au cours de son conclave de 3 jours organisé à Kinshasa. Toutefois, ce parti de l'opposition demande à la Première ministre de mettre aussi un accent particulier sur la lutte contre la corruption. On écoute Matata Ponyo, président du LGD, au micro d'Alain Rong.
Le conclave a dit ceci, tout en souhaitant la chance au gouvernement. Ce gouvernement va se buter à un obstacle qui ne sera pas franchi. C'est la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et la population. En économie, la confiance joue un rôle clé. Le premier élément qu'il faut faire, c'est le rétablissement du cadre macroéconomique, qui est représenté par des indicateurs clés, les taux d'échange et le taux d'inflation. Bon, il y a d'autres indicateurs, mais je préfère, à ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique, retenir ceux-là. Vous savez, j'ai gouverné en tant que Premier ministre pendant 5 ans. J'ai été ministre des Finances pendant 2 ans, mais le taux d'échange est resté stable. Aujourd'hui, M. Matata est un peu comparé au symbole de la stabilité du taux d'échange et des prix intérieurs dans ce pays. Mais le deuxième conseil que je dois donner au gouvernement, c'est d'investir dans les infrastructures, comme je l'ai fait aussi quand j'étais Premier ministre. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est très bien. C'est des politiques conjoncturelles. Mais l'investissement, ce sont les politiques structurelles. Ça, c'est ce qui permet de créer des richesses.
Toujours à propos de la publication du nouveau gouvernement de la RDC, notez cette réaction d'un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Luc Kabunangu, dit « prôner plus la méritocratie que la géopolitique au sein du gouvernement national. Être membre du gouvernement parce qu'on est originaire d'une quelconque province risque de conduire le pays à la division et à la mauvaise gestion. » Luc Kabunangu l'a dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
La représentativité d'une organisation nationale est naturelle et celle même du gouvernement national est reprise dans la Constitution. Seulement, cette représentativité-là devrait se faire selon des critères de mérite qui vont nous assurer de bons résultats dans la gouvernance de la chose publique. Ici, on commence à réclamer des postes dans le gouvernement national sur base des origines, alors que la vocation d'abord du gouvernement national est celle de s'occuper de tous les secteurs de la vie de la République au niveau national. C'est le Sénat qui veille aux intérêts des provinces au niveau national. Nous pensons que c'est une recette de l'échec qui nous amène plus à la division et à la mauvaise gouvernance au lieu d'aider la République.
Actualité internationale. La frontière entre le Bénin et le Niger reste fermée. Plusieurs déclarations des dirigeants des deux pays ne laissent pas entrevoir pour le moment un règlement de leurs différends autour de la fermeture de leurs frontières et de l'exploitation d'un pipeline qui doit permettre d'exporter du pétrole nigérien. Dans une interview à la télévision nationale, le président béninois Patrice Talon dit regretter que son émissaire à Niamey n'a pas été reçu par le président du Niger, mais le lendemain, à l'occasion d'une conférence de presse diffusée sur la télévision nigérienne, c'était au tour du Premier ministre nigérien de répondre au président béninois. La question du maintien de la fermeture de la frontière et les problématiques d'exportation du pétrole sont au cœur de cette tension entre les deux pays.
L'invité. Comme annoncé, nous recevons Augustin Matata Ponyo, président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement SGD. Il s'exprime sur les résolutions formulées à l'issue du conclave de son parti, organisé du jeudi 30 mai au samedi 1er juin à Kinshasa. Parmi les résolutions phares de ce conclave, le LGD, formation politique de l'opposition, dit non à la révision constitutionnelle et demande la suppression de la CENI. Augustin Matata Ponyo est avec Alain Rongmouchinj.
Monsieur Matata Ponyo Mapon, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ce conclave maintenant ?
Écoutez, il était important, après 2 ans d'activité politique, de pouvoir faire le bilan de nos actions. Et nous avons fait coïncider ce conclave avec les 2 ans d'existence politique. Il était question de pouvoir évaluer nos faiblesses, nos forces, pour corriger les erreurs et consolider nos performances. Et c'est ce qui a été fait, mais comme toujours, à l'occasion de ce type de situation, il est aussi indiqué de faire des projections pour voir quelle est la voie à suivre afin d'atteindre l'objectif principal qui est assigné à un parti, comme vous le savez, c'est de prendre le pouvoir pour garantir le bonheur du peuple. Voilà donc l'objet principal de ce conclave.
Qu'est-ce qu'on peut considérer comme les grandes conclusions de ce conclave ?
Ce conclave a permis d'abord de faire le point sur le processus électoral et nous avons considéré ce processus comme état chaotique. C'était un échec cuisant du pouvoir dans l'organisation des élections. En effet, ces élections n'étaient pas en réalité les élections, c'était un processus de nomination des personnes dont la plupart n'étaient pas élus. Ceci nous a conduit à faire une recommandation qui est la suppression pure et simple de la CENI. Pourquoi ? Parce que la CENI a été créée pour qu'elle constitue une structure indépendante. Aujourd'hui, on voit très bien que la CENI n'est pas indépendante. Elle est inféodée au pouvoir. Deux, la CENI a été créée pour des élections transparentes et équitables. On voit très bien que la CENI n'est pas à mesure d'organiser des élections transparentes et équitables. Et donc, la CENI a échoué dans sa mission. Et nous avons proposé une solution. Il faut que la CENI soit remplacée par une structure indépendante et de grâce par une structure internationale. Ce n'est pas question de souveraineté nationale, puisque nous avons dit, nous prenons l'exemple, la protection des citoyens et de biens et services dans un pays, c'est une question de souveraineté. Mais parce que l'État congolais n'est pas en mesure de jouer cette fonction de manière tout à fait pleine, mais elle fait recours notamment aux forces armées extérieures. Et dans le cas d'espèce, l'État congolais, à travers la CENI, n'est pas capable d'organiser les élections qui soient transparentes, qui soient équitables, autant recourir à une structure indépendante. Pour donner la chance aux Congolais d'aller voter en 2028, prenons carrément une structure internationale indépendante. Et ça coûterait d'ailleurs moins cher. L'une des recommandations phares du conclave, c'est celle qui consiste à s'opposer à toute révision constitutionnelle. Pour le conclaviste, le problème dans lequel se trouve la RDC aujourd'hui ne procède pas des problèmes constitutionnels, parce que la constitution elle-même n'est pas appliquée.
Parlons maintenant de l'actualité. Vous le savez, il y a un gouvernement qui a été mis en place, le gouvernement Judith Suminwa. Quelles pourraient être les priorités pour ce gouvernement, les défis ainsi que les recommandations?
D'abord, je félicite tous les membres du gouvernement qui ont été nommés tout récemment. Je félicite aussi la première ministre qui est appelée à diriger cette équipe. Mais le conclave a dit ceci, tout en souhaitant la chance au gouvernement. Ce gouvernement va se buter à un obstacle qui ne sera pas franchi. C'est la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et la population. En économie, la confiance joue un rôle clé. Le premier élément qu'il faut faire, c'est le rétablissement du cadre macroéconomique, qui est représenté par des indicateurs clés, les taux d'échange et le taux d'inflation. Bon, il y a d'autres indicateurs, mais je préfère, à ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique, retenir cela. Vous savez, j'ai gouverné en tant que Premier ministre pendant 5 ans. J'ai été ministre des Finances pendant 2 ans. Mais le taux d'échange est resté stable. Aujourd'hui, M. Matata est un peu comparé au symbole de la stabilité du taux d'échange et des prix intérieurs dans ce pays. Mais le deuxième conseil que je dois donner au gouvernement, c'est d'investir dans les infrastructures, comme je l'ai fait aussi quand j'étais Premier ministre. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est très bien. C'est des politiques conjoncturelles. Mais l'investissement, ce sont des politiques structurelles. Ça, c'est ce qui permet de créer des richesses.
Monsieur Matata Ponyomapon, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Alain.
Le président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, répondait aux questions de Alain Rung Mouchinj. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.